Sa voix monte, il s'emporte, elle recule, effrayée. Il se calme. Il redescend. Mais alors, qui remercier? Il sait gré au hasard. Il l'a placée, là, devant lui. Maintenant, il a vraiment besoin d'elle. Elle n'imagine pas à quel point. Elle sent que c'est sérieux, que c'est important. Elle a toujours su écouter. Elle se redresse, elle croise ses mains sur son tablier. Elle approche encore son oreille de la bouche ravagée. Elle recueille dans son giron les mots qui tombent. Monsieur lui parle des médailles qu'il a reçues. Elle les voit, disposées sur la table de nuit. Elles brillent doucement dans la lumière mauve des rideaux tirés. Il a été nommé lieutenant. Il a eu ses galons pendant qu'il était à l'hôpital. Depuis, ses décorations sont posées près de lui, au milieu des flacons, des remèdes, des calmants, des médicaments. Elles sont là, à côté. Elles racontent à leur façon, témoignent de ce qui lui est arrivé. Elles affirment à lui, aux autres, au reste du monde, que la guerre a fait de lui un homme différent, mais un héros quand même. Tu parles. Les mots sifflent. Tu parles. Ils s'agacent. Les vrais héros sont partis, morts depuis longtemps. Fauchés à la sortie des tranchées. Tombés dans le no man's land. Eux ne gisent pas sur un lit médical. Eux ne croupissent pas dans une villa. Eux n'ont pas besoin d'une boniche qui les torche et les nourrit. La voix grogne. Sa figure se déforme davantage, si c'est possible. Son rictus est affreux, pire que d'habitude. Il écume, il enrage. Elle prend peur à nouveau. Elle éloigne son visage fatigué du visage ravagé. Il va le lui demander encore. Elle frémit. Mais il se radoucit. Il ne veut pas l'effrayer, il a trop besoin d'elle. Elle se trouve encore plus stupide. C'est humiliant. Et cet homme, avec son sourire narquois et son regard indolent, il doit être du genre à s'en réjouir. Elle a envie de disparaître. C'est ce qu'il faut faire, disparaître, quitter cette maison. Elle a dû penser à voix haute, car Aimé de S écrase sa cigarette dans un cendrier de poche qu'il referme d'un claquement sec, avant de se lever d'un geste brusque. Son bagage est-il prêt? Si elle le souhaite, il peut la déposer à la gare d'ici une demi-heure. Elle arrivera à temps pour attraper le prochain train pour Paris. Alexandrine bondit jusqu'à l'étage et fourre dans ses sacs du plus vite qu'elle le peut ses toilettes, ses flacons, sa chemise de nuit, ses chaussures, le livre qu'elle a posé sur la table de chevet et qu'elle n'a pas ouvert. Un dernier coup d'œil pour vérifier qu'elle n'a rien oublié. La pièce vide semble triste et en désordre. Elle se dit qu'elle appellera de chez elle, prétextera une urgence. Avec Blaise, c'est facile à trouver. Blaise. Alexandrine ravale un soupir. Elle referme la porte sur le lit défait et la cheminée éteinte. En bas, le moteur de l'auto ronronne et la portière côté passager est ouverte. Elle s'engouffre dans le véhicule sans regarder autour d'elle. Elle ferme les yeux, s'applique à respirer plus lentement. Pourtant, les images se bousculent derrière ses paupières. Elle aimerait les ignorer, mais elle s'impose, violente. Le regard bleu clair de l'homme au chapeau la poursuit, indéchiffrable. Elle est mal à l'aise. De la honte, voilà ce qu'elle a ressenti pour Irène, à sa place, puisqu'Irène n'a pas l'air de connaître ce sentiment. C'est cette honte qui a soulevé toute cette colère, toute cette révolte. Alexandrine déteste avoir honte. Plus elle y pense, plus elle est sûre qu'il n'y a rien de pire. L'automobile roule vite, il n'y a personne sur la route. Fidèle à lui-même, son chauffeur ne dit pas un mot. Alexandrine brûle de l'interroger. Cette soudaine sollicitude l'intrigue autant qu'elle l'inquiète. Après tout, la voilà seule avec un inconnu. Prenant son courage à deux mains, elle se lance. Qu'a-t-il entendu dans le salon tout à l'heure, avant de lui proposer de l'emmener à la gare? Il répond, laconique, « Tout ».